Migration des Français en Amérique du Sud. Première partie, Pigway.
Épisode numéro 4, recrutement des futurs colons.
Cante custerum, cante custerum, cante custerum, los esclops. Canterun, 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 nous. Canterun, 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 nous. Sinsous, custerun, sinsous, custerun, sinsous, custerun, luzes.
Avant de nous plonger dans l'émission d'aujourd'hui, nous faisons place à un éclaircissement important. Les auditeurs qui ont aiguillé leur poste sur Radio Larzac le mardi 17 janvier à 19h, avec l'intention d'écouter le troisième épisode de Pigoué, furent, comme moi, étonnés de se trouver dans une émission inattendue, au point de se demander s'il s'agissait bien de Radio Larzac. Ceux qui sont restés comme moi devant le poste et qui avaient la soirée disponible, ce qui n'était pas mon cas, ont pu écouter notre émission à partir de 19h45. En effet, une émission indirecte fut programmée pour finir plus tôt, mais elle a largement débordé. Nous vous prions de nous en excuser. Ce sont les aléas des émissions indirectes qui surgissent au courant de l'année, contrairement à la nôtre, dont la plage d'horaire est décidée en début de saison.
Cante custerum, cante custerum, cante custerum, los esclops. Canterun, 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 nous. Canterun, 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 nous.
Nous sommes aujourd'hui à notre quatrième épisode.
Recrutement des futurs colons. Petit rappel des épisodes précédents.
France, fin du 19e siècle. Mécanisation, chômage, misère, phylloxéra, abandon des campagnes, exode.
Argentine, fin du 19e siècle. Finit la guerre sanglante contre les autochtones. Urgence de peupler les terres d'où ils furent expulsés avant qu'ils n'y reviennent. Urgence de peupler les terres du Sud, cette zone floue allant vers la Patagonie, où la menace chilienne plane constamment.
L'Argentine se lance dans une campagne d'immigration sélective. Des Français saisissent l'occasion et migrent. D'aucuns rêvant d'un Eldorado et d'autres espérant simplement des chances d'améliorer leur vie. Parmi eux,
Clément Cabanette.
Jeune aveyronnais de la ville d'Ambec, ancien élève du réputé collège d'Espalion, ayant quitté son poste au Crédit Lyonnais de Paris pour participer au projet de réorganisation des cadres de l'armée argentine. Et
François Issali.
Jeune aveyronnais de Poudance, ayant laissé une vie professionnelle incertaine de domestique, puis de charpentier, pour une vie plus solide dans un pays naissant. Nos deux protagonistes arrivent à peu près à la même époque à Buenos Aires. Le contexte politique est trouble. Le pays est livré à une guerre sans mesure. L'armée argentine essaye par la force et par le sang de déloger les autochtones des terres qu'ils occupent depuis des siècles. Clément Cabanette abandonne son projet initial auprès de l'armée argentine et finit par se stabiliser dans un poste à la compagnie du pain téléphone, l'Union téléphonique, où ses connaissances et qualités lui font rapidement gravir les échelons et se retrouver à la direction. François Issali visite le pays, travaille ici et là, observe, et décide de s'installer définitivement en Argentine. Mais auparavant, il veut retourner en France pour aller chercher sa famille. par ruse du destin ou du hasard,
celui qui fait très bien les choses,
nos deux Aveyronnais font connaissance à Buenos Aires le 1er juin 1882 dans les bureaux de l'Union téléphonique de Buenos Aires. Unis par leurs racines aveyronnaises, les deux hommes sympathisent et Clément Cabanet livre à François Isalli son rêve de fonder en Argentine une colonie aveyronnaise. Le rêve se concrétisera, le croit-il fermement, à tel point qu'il s'est déjà transformé en projet. Avec des associés argentins, ils ont obtenu du gouverneur de la province de Buenos Aires la promesse de cession de terres pour installer la colonie.
Elle se fera.
Oui, c'est une question de temps, car la promesse verbale doit être concrétisée par la signature de la cession. Assuré par la confiance que François Isalli inspire, Clément Cabanet lui propose de s'associer à son projet et l'embauche comme charpentier à l'Union téléphonique de Buenos Aires, le temps d'attente de la signature du contrat de cession des terres. L'attente dure presque un an. Période pendant laquelle les deux hommes se réunissent tous les soirs et étudient et perfectionnent le projet de Clément Cabanet. Enfin, le gouverneur annonce à Clément Cabanet la signature imminente du contrat de cession des terres. Celui-ci donne alors le feu vert à François Isalli pour entrer en France et lui confie la mission de recruter un aveyron, les futurs colons. François Isalli comptera aussi, dit Clément Cabanet, avec l'aide de son père, M. Cabanet à Imbec, et de son ami François Guay à Tolé. François Isalli se met en œuvre dès son arrivée en France en juin 1883. Il se rend chez M. Cabanet père et ensuite chez François Guay. Il leur expose le projet de Clément Cabanet et il précise ce que Clément Cabanet attend d'eux en France pendant qu'il s'occupe des démarches administratives en Argentine. La tâche s'avère difficile. Et les premiers résultats d'un affichage de l'information du recrutement des futurs colons se montrent totalement déroutants. François Isalli demande alors à M. Cabanet père et à François Guay de financer avec lui une campagne par voie de presse. Face au refus des deux hommes, François Isalli décide alors d'assumer tout seul la campagne. Les résultats ne s'y font pas attendre. François Isalli, M. Cabanet père et François Guay reçoivent lettres et demandes d'inscription au projet, à tel point que François Isalli décide de s'installer à Villecontal, où il a plus de commodités, ne serait-ce que la poste. Cependant, le coût de l'opération est important. Le père Cabanet et François Guay continuent à se refuser à l'aider, car il se trouve dans une situation financière très délicate et conseille même à François Issali de tout abandonner, car ils savent que la famille Issali est tributaire de son apport financier.
Pendant que François Issali se donne avec ardeur à sa tâche et qu'il obtient un succès inespéré dans ses démarches de recrutement de futurs colons, de l'autre côté de l'océan...
En Argentine, le gouverneur de la province de Buenos Aires revient sur sa décision et cède aux Indiens les terres promises à Cabanet et ses deux associés. Pas à n'importe quels Indiens, évidemment. Il s'agit d'une récompense pour ceux qui avaient lutté du côté de l'armée argentine et avaient participé du massacre de leurs semblables dans la conquête de leurs terres. Bien sûr, les gouverneurs promettaient à Clément Cabanet d'autres terres, mais...
Cabanet ne peut plus avoir confiance.
L'effet est que, combatif, décidé, Cabanet ne baisse pas ses bras. Il s'y met immédiatement à parcourir les pampas argentines à la recherche de terres à coloniser. C'est ainsi qu'à bord d'une voiture à cheval, il se retrouvera dans les Sierras, montagnes, de Curumalan, à 600 km environ de Buenos Aires, capitale de l'Argentine, et à 140 km du grand port de Bahía Blanca, dans les terres de Piyué. Clément Cabanet tombe sous les charmes de la région et il dira plus tard.
Où mon âme se sentit la plus émerveillée, ce fut en contemplant l'endroit, dénommé Piyué, qui, par ses montagnes et ses pittoresques paysages, amenait à mon esprit de français immigré la douce nostalgie des belles montagnes de mon pays natal, et je me dis, c'est ici que nous devons planter notre tente de campagne. C'est bien la terre promise, semblable à celle que fut donnée aux Hébreux par Jéhovah.
Cependant, pris par le souci de vraiment choisir, il visite d'autres régions voisines avant de prendre sa décision définitive. Mais les choix étaient tout faits. De retour à Buenos Aires, il rencontre le propriétaire des terres, Édouard Casey, homme de la trentaine avancée, fort riche, né à Lobos en Argentine, mais appartenant à une famille de la noblesse irlandaise du comté de Dublin, de la maison des Casey O'Neill. Clément Cabanet expose à Casey son projet de fondation d'une colonie agricole avec la participation des familles venant de son rouergue natal. Édouard Casey, au premier abord, peu enclin à accepter la proposition de Clément Cabanet, finit par se laisser convaincre et lui vend 27 000 hectares de terre dans l'immense domaine de Piyué. La signature du contrat de vente se fera au début de l'année 1884 par la somme approximative en francs français de 200 000 francs de l'époque.
Mais de l'autre côté de l'océan, François Issali ne se doute de rien?
Non, il ne se doute de rien, mais... L'intitulé de prospectus de Clément Cabanet, envoyé le 4 novembre 1883, l'interpelle.
Colonie française de Buenos Aires, République argentine, Fondation Clément Cabanette, Buenos Aires, 1883.
Alors que les prospectus précédents annonçaient.
Colonie française Aveyron, République argentine, fondateur Clément Cabanette.
De plus, la lettre de Clément Cabanette qu'accompagne les prospectus laisse planer des doutes.
Je vous envoie de nouveaux prospectus. Vous y trouverez un changement quant au lot de terrain à donner aux familles. Je donnerai 200 hectares.
Rappelons-nous que précédemment, Clément Cabanette accordait de 200 à 400 hectares.
C'est un lot assez grand, mais je respecterai les compromis que vous avez déjà pris.
Nous imaginons que François et Sally respirent soulagés.
Seulement, je vous prierai de vous en tenir au terme des nouveaux prospectus pour les nouvelles demandes.
Puis, pour tranquilliser François et Sally...
Le terrain que j'ai pris est sans contredit, le plus beau et le plus fertile de la province. Il se trouve aux Sierras de Curumalan et de la Ventana. Au milieu de la colonie, il y a une station de chemin de fer qui va de Buenos Aires à Bahia Blanca. À la fin de cette année, le chemin de fer sera terminé. Vous comprendrez maintenant la facilité et la commodité que nous aurons pour le transport.
Inquiétude chez François et Sally. Qu'a pu bien se passer pour provoquer ces changements? Pas d'explication, juste une information en passant.
J'ai dû renoncer, pour le moment, au terrain promis par le gouverneur.
Après la réception des nouveaux prospectus, François et Sally renouvellent sa demande d'aide financière auprès de Cabanette Père et de François Gay, demande refusée comme auparavant. Sans autre solution, il s'adresse aux journaux de Rodez, y assumant toujours seul les frais de parution des publications. Il suit sa campagne, malgré la nécessité urgente d'aider son père, qui se voit face à la faillite par la menace de saisie de ses « petits biens », selon les mots de François et Sally. François et Sally écrit à Clément Cabanette pour le tenir au courant de ses difficultés, car ses économies touchent à leur fin, et M. Cabanette Père et François Gay sont dans l'impossibilité de l'aider. Aussi, ils sollicitent instamment la participation financière de Clément Cabanette aux frais de la campagne, sous peine de ne plus pouvoir continuer. Sa lettre se croise avec une lettre de Clément Cabanette, laquelle finit dans ces termes.
Je vais répondre aux personnes dont vous m'envoyez les demandes. Quant à vous, mon ami, je me réserve de vous récompenser comme vous le méritez.
Et encore ?
Continuez toujours les affiches et les annonces dans les journaux. Je vous enverrai prochainement 200 francs, sans compter que vous pourrez vous adresser à mon père.
Hélas ! Clément Cabanette recevrait bientôt la lettre de François et Sally dans laquelle lui racontait la position de refus de M. Cabanette Père. Le temps passe. Les lettres de Clément Cabanette se multiplient. Il accuse réception des demandes d'inscription à la vente des terres envoyées par François et Sally et l'exhorte à poursuivre ses efforts de recrutement en France. Dans sa lettre de 1er janvier 1884, il informe François et Sally de l'arrivée des premières familles.
J'ai environ une vingtaine de familles que je vais installer ce mois-ci à la colonie. On travaille dur aux constructions et au dressage des animaux.
Il se montre toujours enthousiaste.
Je suis très satisfait. Cette année s'annonce excellente.
Mais il laisse transparaître des inquiétudes concernant les financements de l'opération.
Le terrain me coûte 200 000 francs la lieue et, vu la fertilité, je ne pourrai donner que 100 ou 200 hectares à chaque famille.
Le 10 février 1884, un mois plus tard, Clément Cabanette écrit.
Aujourd'hui même, je reviens de la colonie où on travaille beaucoup. Je vous garantis que nos bons cultivateurs aveyronnais vont s'étonner devant la situation et la bonté du terrain. C'est purement admirable. Déjà, dans tout le pays, on parle de cette colonie. Je reçois tous les jours des demandes d'achat de lots de terrain. Mais naturellement, je refuse à tous, avant tout nos compatriotes. Je veux qu'un jour, toutes les familles qui viendront ici me témoignent leur reconnaissance pour leur avoir donné le bien-être. Ce sera ma plus belle récompense.
Finalement, par lettre du 10 mars 1884, Clément Cabanet envoie un chèque de 500 francs à François et Sally, dont 250 doivent être transmis, sans autre explication, à François Guay. François et Sally proposent à François Guay de lui laisser cette somme, étant donné qu'il avait assumé seul tous les frais de diffusion et propagande jusqu'alors, et qu'il en aurait encore besoin pour la suite. Chose que François Guay refuse, due à sa contribution aux modalités du projet. Côté Clément Cabanet, il insiste sur les critères de sélection des futurs colons.
« Ce qu'il nous faut avant tout »,
écrit-il dans sa lettre du 20 mars 1884 à François et Sally.
« Ce sont des agriculteurs, vous le savez très bien, et des agriculteurs avec des fonds. »
Le terme « fonds » est souligné. Et par sa lettre du 26 mars, il félicite François et Sally de ses efforts.
« Je suis très content de voir que vos efforts sont couronnés de succès. J'ai reçu avec plaisir les 8 demandes que vous m'envoyez. C'est vous dire qu'elles sont toutes accordées et avec plaisir. »
L'échange épistolaire entre François et Sally Clément Cabanet s'étend jusqu'au début du mois de mai de cette année 1884. Car Clément Cabanet avait programmé son arrivée en France au début du mois de juin pour s'occuper personnellement des signatures des contrats et des démarches préparatoires au voyage des colons vers l'Argentine. À propos de ces lettres, François et Sally, toujours soucieux de porter l'histoire telle qu'elle s'est passée, consignent dans son journal.
Bien qu'un plus grand nombre de lettres que celles mentionnées ici me fussent envoyées des Buenos Aires par M. Clément Cabanet, avant son arrivée en France, je ne cite ici que celle-là, restée en mon pouvoir, pour servir de témoignage à la vérité de mes déclarations. Les autres ayant été données aux intéressés qui avaient sollicité des concessions ou des renseignements, je ne les mentionne pas.
À la mi-juin, François et Sally reçoivent une lettre de Clément Cabanet, expédiée de Lisbonne, par laquelle il lui signifie qu'il arrivera à Rodez le 23 ou le 24 juin au soir.
Clément Cabanet racontera-t-il à François et Sally ses déboires? Et François et Sally poursuivra-t-il son travail avec tant d'ardeur dans cette entreprise?
Ah, oh Marie, curieuse comme toujours, je n'en sais rien encore. Nous le saurons au prochain chapitre.
Cante custerum, cante custerum, cante custerum, luces clops. Canterum, 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 nous. Canterum, 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 nous. Sinsous, custerum, sinsous.
Avant de rendre l'antenne, retenons notre attention sur notre choix musical. Il se fait à partir des suggestions et propositions qui nous viennent de plusieurs auditeurs, musiciens, mélomanes, passionnés par la musique traditionnelle rouergate, occitane et traditionnelle tout court. Car, ignorante que je suis dans ces domaines, j'ai crié au secours. Sauf la dernière musique de la dernière émission, choisie par moi et qui fut très appréciée. Il s'agit des « Vientos del Alma », une composition des Argentins Barrientes et Montes et de l'interprétation remarquable de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, née en Argentine en 1935, décédée en 2009, a consacré sa vie à la cause amérindienne, elle-même descendante des Indiens Diaguitas. Aujourd'hui, nous avons écouté Quand le merle salta al prat, quand le merle salto al prat, avec Martin Kaila à l'accordéon et à la voix.
Cante custerum, cante custerum, cante custerum, luces clops. Canterun, 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 nous. Canterun, 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 nous. In sous custerun, in sous custerun, in sous custerun, luces clops. Canterun, 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 nous.
Vous venez d'écouter Migration française vers l'Amérique du Sud.
Première partie, Pigoué. L'histoire des Aveyronnais devenus gauchos.
Racontée par une gauche devenue aveyronnaise.
Une émission enregistrée au studio de Radio Larzac avec un texte de Rita.
Régie et montage Marie. Et les voix de
Marie,
Jean,
Nicolas
et Rita. Nos sources aujourd'hui.
De l'Aveyron à l'Argentine, itinéraire d'un pionnier. Chronique de la fondation de la colonie française aveyronnaise de Pigoué, d'après le manuscrit de François Issali, 1924, adaptation de Nadine Coste.
Ces Français devenus gauchos d'Émile Cabanet et Pierre Gombert.
Canterun, 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 biels, canterun, 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 biels, canterun.
Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui collaborent dans nos recherches musicales. Merci à vos auditeurs. N'oubliez pas, prochain épisode, mardi 20 mars à 19h ou le samedi 24 mars à 15h. Soyez impatients.
Et vous pouvez aussi écouter tous les épisodes de la série Pigoué en allant sur le site de Radio Larzac et en fouillant dans les émissions.
À la lettre P, comme Pigoué.
Canterun, 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 nous. Canterun, 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 nous. Sinsous, de tazos, sinsous, de tazos, sinsous, de tazos, luzes clops. Canterun, 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 nous. Canterun, 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 nous. Sin sous de bato, sin sous de bato, sin sous de bato, iluses clops. Canterun, 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 nous. Canterun, 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 nous.